Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Maude Tenaillon, qui va vous parler de la domestication du maïs cultivé, donc directrice de recherche CNRS à l'Université Paris-Saclay, dans l'Institut IDEV, Évolution du vivant.
Merci beaucoup. Donc, je voulais commencer ce topo par remercier très chaleureusement Tatiana de m'inviter à vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la domestication des plantes, de la coévolution entre les plantes et les hommes, qui a donné lieu à l'émergence de l'agrobiodiversité. Et pour vous illustrer ce thème de recherche, j'ai choisi l'exemple du maïs cultivé, qui est une espèce qui a été vraiment pionnière en fait, dans les études de domestication, pour lequel on a donc acquis un grand nombre de connaissances et pour lesquelles de nombreuses conclusions qui ont été acquises sur ce modèle sont en fait valables pour d'autres modèles de plantes cultivées. Donc j'ai choisi ici un tableau d'Archimoldo qui vous montre que au-delà de la génétique, l'agrobiodiversité peut aussi être une source d'inspiration artistique. Alors ce qui m'intéresse dans la domestication, c'est cette idée de couplage entre l'histoire humaine et celle des plantes, un couplage irréversible entre l'histoire humaine et celle des plantes. Donc je définirais ici la domestication comme l'acquisition par une espèce de caractère profitable aux humains. Et le couplage entre les hommes et les plantes naît de la dépendance qui s'installe entre, d'une part, les plantes domestiques qui sont peu adaptées à leur survie dans leur environnement naturel, qui sont devenues petit à petit inadaptées à cette survie, et la dépendance également des humains aux plantes domestiques, puisque leur alimentation dépend largement d'un petit groupe de plantes domestiques. Et donc, il y a cette couplage, cette interdépendance, cette coévolution entre les hommes et les plantes qui est vraiment, je trouve, fascinante. Alors, la domestication, comment commence l'histoire? Elle commence à partir de populations sauvages qui sont soumises dans leur environnement naturel à une pression de sélection naturelle. Et en fait, cette sélection naturelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet l'adaptation de ces populations sauvages à une multitude d'environnements. Et ensuite, ces populations sauvages, pour certaines, ont été mises en culture avant la domestication. Puis on a l'étape de domestication en elle-même, suivie de l'étape d'amélioration et de dispersion des formes domestiques. Et bien sûr, au cours de cette domestication, des formes domestiques, on a des processus aussi d'adaptation locale, puisqu'on a une dispersion des cultures en dehors de leur centre d'origine et des adaptations à des multitudes d'environnements. Donc les trois dernières étapes ici sont sujettes à la fois à la sélection naturelle mais également à une sélection humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que les formes sauvages et les formes domestiques ont maintenu en fait un dialogue à travers des flux de gènes. Et donc, il y a une possibilité d'échange en fait, pour les formes sauvages et domestiques qui sont pour la plupart restées interfertiles. Alors, la domestication, ça a bien sûr été une transition majeure dans l'histoire de l'humanité. Elle a aidé à la sédentarisation de l'homme et également à l'expansion des populations humaines. Donc, sur ce graphe que vous pouvez voir ici, c'est la population sud-américaine. Vous pouvez voir que on a ici une augmentation de cette densité de population. Et puis, au moment de la transition néolithique qui a accompagné l'agriculture, on a un très fort changement de pente qui correspond à une très forte augmentation de la densité des populations humaines. Alors, cette expansion des populations a conduit à l'absorption et au remplacement des populations de chasseurs-cueilleurs et au développement de technologies, la construction de villes, la division du travail qui a entraîné une stratification sociale, avec des conséquences très importantes sur les paysages, donc ça je vous ai illustré ici par deux photos, des conséquences sur notre environnement, sur l'émergence aussi de maladies infectieuses qui sont souvent dues à notre proximité avec les animaux d'élevage et une augmentation globale du fardeau pathogène qui est lié à l'augmentation aussi de la densité humaine. Alors cette transition, en fait, elle a été coûteuse, puisque en fait, les humains ont acquis une forte dépendance à seulement quelques espèces. Et puis, l'agriculture, ça a aussi été un régime alimentaire moins varié, avec l'apparition de déficiences nutritionnelles. Et ça a causé un déclin initial sur la santé qu'on peut voir en fait ici. Ici, vous avez l'évolution de la taille chez les hommes et chez les femmes. Et vous voyez que la transition néolithique a conduit à un déclin très fort en fait, de la taille aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et c'est qu'à partir en fait, des années 1850 qu'on a commencé à avoir une augmentation de taille extrêmement forte de plusieurs centimètres par génération. Donc c'est l'augmentation que vous voyez ici. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, mais je ne suis pas de ce domaine-là, mais je trouve que c'est assez intéressant, si vous regardez la taille, l'augmentation de la taille du cerveau chez les homininés, vous voyez qu'il y a une augmentation relativement régulière, donc là c'est exprimé en millions d'années, relativement régulière, avec un boom ici qui correspond à l'apparition du genre Homo, puis Homo sapiens ici. Et qu'est-ce qui se passe récemment? Vous voyez une baisse de la taille du cerveau humain dans les quelques derniers milliers d'années. Et il y a des articles qui proposent que cette baisse récente de la taille du cerveau serait liée au coût de la réponse immunitaire, peut-être également à l'acquisition d'une intelligence collective au profit d'intelligence individuelle. Et on pourrait également avoir une sélection relâchée par un apport constant de nourriture qui fait qu'on a à gérer un environnement beaucoup moins complexe pour s'alimenter. Donc c'est vraiment encore, si j'ai bien compris, sujet à débat, et ce n'est pas exactement lié, c'est apparu plus tardivement que la transition néolithique, mais je trouvais que c'était intéressant de mentionner ça. Alors l'humanité, bien sûr, elle s'est adaptée aux plantes. Donc ici, il y a un exemple de l'augmentation du nombre de copies des gènes connant une enzyme qui s'appelle l'amylase, qui permet de digérer l'amidon chez les humains. Donc vous voyez ici une phylogénie, et vous voyez que les humains ont en effet un grand nombre de copies de ce gène codant l'amylase. Et donc ce gène permet donc de digérer l'amidon. Et ce qui est intéressant, c'est que des espèces qui vivent en très proche proximité avec l'homme, telles que la souris ou le rat, ou même des animaux domestiques, le cochon ou le chien, ont également un grand nombre de copies. Et dans cet article, ce qui montre, c'est qu'il existe des corrélations positives entre le nombre de copies, l'activité de l'amylase salivaire et la variété du régime alimentaire. Donc cet exemple suggère qu'il y a bien une adaptation du fait que notre alimentation avec l'agriculture est devenue beaucoup plus riche en amidon, puisque les céréales, par exemple, sont très, très riches en amidon. Et donc, il y aurait une adaptation qui fait qu'il y aurait une sélection pour une augmentation du nombre de copies d'amylase, aussi bien chez les hommes que chez les animaux qui partagent quelque part des similarités de régime alimentaire. Donc, l'humanité s'est adaptée aux plantes, mais les plantes se sont aussi adaptées aux besoins humains, et c'est vraiment ici le centre de cet exposé. Alors, comment elles se sont adaptées? Elles ont des architectures plus compactes. Donc, si vous prenez le tournesol sauvage ici, il a une architecture beaucoup plus compacte que le tournesol domestique. Il en est de même ici chez le millet sauvage et le millet cultivé. Les moyens de dispersion des graines ont été perdus. Donc on a un exemple ici chez le riz, riz sauvage, riz cultivé, où les grains restent attachés. Et puis on a aussi une augmentation de la taille des organes récoltés. Donc c'est illustré ici chez la tomate, chez la pomme, mais également dans la racine de la betterave à sucre. On a également une réduction de dormance et une réduction des toxines. Donc, Tatiana en a beaucoup parlé. Alors, en quoi la domestication est-elle intéressante? Elle est intéressante parce qu'elle permet d'établir un lien entre génétique et archéologie et d'en connaître plus à la fois sur notre histoire et l'histoire des plantes. Elle est aussi, comme nous l'a montré Tatiana, un excellent modèle pour étudier les processus adaptatifs. On peut se poser des questions sur les conséquences génomiques de la domestication, les déterminants génétiques qui sous-tendent les caractères de domestication, et également des questions sur l'évolution de ces caractères. La domestication, c'est évidemment aussi l'émergence de l'agrobiodiversité, et on peut se poser aujourd'hui la question du potentiel adaptatif de ces espèces, notamment face au changement climatique, de l'importance du dialogue entre les formes sauvages et domestiques, et également... Est-ce qu'il y a des moyens, en fait, de renforcer des interactions coopératives entre espèces domestiques? Donc, au cours de cet exposé, je vais essayer de vous parler un peu de tous ces aspects en prenant différents exemples. Et je vais faire ça en prenant comme exemple plus particulièrement le maïs, qui, comme je vous l'ai dit, est une espèce vraiment modèle pour étudier la domestication. C'est vraiment une espèce pionnière, en fait, pour ces travaux. Et donc, je vous ai illustré ici un champ de... Enfin, pardon, une population de théosinte sauvage, donc ici au Mexique. Donc, les théosintes sont les plus proches apparentés sauvages du maïs cultivé. Vous avez ici une photo de théosinte, vous voyez, avec un port extrêmement buissonnant, et cet épi, qui est donc très petit, composé de quelques grains qui sont en quinconce et qui sont recouverts d'une cupule très dure qui les rend assez impropres, en fait, à la consommation. Ensuite, vous avez ici des variétés traditionnelles. Donc, à partir des populations sauvages, la domestication a conduit à l'émergence de variétés traditionnelles. Donc, vous pouvez voir une photo ici, qui sont extrêmement divers sur la forme et la couleur des épis. Et puis, à partir de ces variétés traditionnelles, ont été dérivées des lignées. Et vous avez ici un champ de lignées de maïs, un matériel donc génétiquement très homogène, qui a ensuite servi pour faire de la sélection hybride et l'obtention donc de maïs hybride avec un épi beaucoup plus grand qui contient des centaines d'épis, des centaines de grains, pardon, et des grains nus qui sont évidemment propres à la consommation, aussi bien des humains que des animaux. En ce qui concerne donc l'histoire, qu'est-ce qu'on apprend sur l'histoire ? Donc, tout d'abord, un petit rappel en fait sur les centres de domestication. Donc, comme vous l'a indiqué Tatiana, il y a des centres à travers la planète. Il y a des centres de domestication qui sont des centres, des régions géographiques dans lesquelles la plupart des espèces ont été domestiquées. Donc aujourd'hui, on reconnaît 6 grands centres de domestication. Ici, j'ai indiqué à chaque fois pour chaque centre les dates des domestications les plus anciennes. Et j'ai aussi indiqué une liste d'espèces qui n'est pas du tout exhaustive, mais juste quelques espèces. Donc vous voyez que le plus vieux centre de domestication qui est considéré comme le berceau de l'agriculture, c'est le croissant fertile ici, avec une des plus anciennes domestications qui est celle du blé, qui date d'il y a environ 13 000 ans, et puis vous avez d'autres domestications comme celle de l'orge, du pois ou de la lentille, par exemple. Vous avez un centre ici américain avec la domestication du tournesol, un centre méso-américain ici, avec la domestication du maïs dont on va beaucoup parler, mais également celle du haricot et de la courge, par exemple, un centre andin avec la domestication également du haricot. Il y a une double domestication chez cette espèce, mais également du tabac, du piment, par exemple. Ensuite, un centre africain qui est un peu plus diffus avec la domestication du mil ou du sorgho. Et puis, un centre asiatique avec la domestication du millet, du soja et du riz. Donc, pour les différents centres. Et donc, le maïs domestiqué ici dans le centre méso-américain. Alors, donc les gens savaient que... Enfin, on avait l'idée que le maïs avait été domestiqué en fait au Mexique, mais on se demandait où. Et en fait, il existe 2 sous-espèces de théosinte. Il y a une sous-espèce de théosinte qui pousse plutôt dans les régions de plaine, qui est appelée parviglumis. Vous voyez l'aire de distribution en vert ici, sur cette carte du Mexique. Et une sous-espèce de théosinte qui s'appelle mexicana, qui pousse plutôt dans les hauts plateaux, dont l'aire de distribution ici est plus ou moins l'aire rouge qui est indiquée ici. Donc, sous des climats beaucoup plus tempérés, finalement. Et puis, donc, ce qui se passe dans les années 80, donc, des chercheurs ont en fait échantillonné un très grand nombre de variétés de maïs dans toutes les Amériques, et puis ils ont fait une caractérisation génétique de ces variétés de maïs et de théosinte, et ils ont établi cet arbre ici. Et ce que vous voyez sur cet arbre, c'est que l'ensemble des maïs cultivés ici ont une origine unique, monophylétique, qui est là donc, et qui les place plus proches de cette sous-espèce qui s'appelle parviglumis, qui est donc la sous-espèce des plaines. Donc, ils ont établi donc, que le maïs avait été domestiqué dans ces régions ici, dans la région de la rivière Balsas, plutôt dans les régions de plaines. Et en fait, cette étude génétique a motivé les archéologues pour aller chercher dans des fouilles ici archéologiques des restes de maïs, plus particulièrement dans cette région-là. Et grâce à cela, ils ont trouvé en fait les plus vieux restes de maïs connus aujourd'hui, qui datent d'il y a 8700 ans, et dont vous voyez ici des grains d'amidon. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ici, c'est vraiment un dialogue entre génétique et archéologie qui a permis en fait d'affiner l'origine du maïs. Alors après cet événement de domestication initiale, le maïs s'est répandu en fait dans les Amériques. Donc vous voyez ici les différentes couleurs de cette carte représentent différents groupes génétiques. Et ce que vous montre ici cette analyse, c'est que donc les maïs ici en couleur sont plus proches de Parviglumis, la sous-espèce verte ici. Donc ça, je vous l'ai déjà dit dans la diapo précédente. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a clairement une expansion nord-sud avec ici, à partir donc des maïs mexicains en rose-rouge ici, les maïs bleus puis roses. Donc vous voyez qu'ils retracent ici cette expansion. Et pareil, vers le sud. Donc c'est à partir de ce type de données qu'on peut retracer les routes d'expansion du maïs, et les différentes dates ici indiquent les dates de restes archéologiques de ces différents maïs. Ce qu'on a pu montrer récemment, c'est que le maïs avait été introduit en Europe selon deux vagues d'introduction, une des Caraïbes vers le sud de l'Espagne et une de la côte nord des États-Unis, Canada, vers le nord de l'Europe, à l'époque de la découverte des Amériques. Donc maintenant, on peut se poser des questions sur les conséquences génomiques de la domestication. Alors, comme vous l'a dit Tatiana tout à l'heure, la domestication, c'est des goulots d'étranglement successifs. Pourquoi ? Parce que quand l'homme a domestiqué le maïs, il a pris un sous-échantillon des théosintes qui existent, donc un sous-échantillon finalement de cette diversité qui est représentée ici par des couleurs, pour dériver des variétés traditionnelles. Et de la même façon, les lignées qu'on a obtenues chez le maïs ont été obtenues à partir d'un sous-échantillon des variétés traditionnelles. Donc ces goulots d'étranglement successifs ont créé une perte de diversité qu'on observe aujourd'hui. Donc ici, je vous montre ici le pourcentage de diversité sauvage retenue par les formes domestiques. Vous voyez que pour la plupart du temps, c'est en dessous de 100%. Pour le maïs, il y a une perte de diversité par rapport aux théosintes qui est estimée à environ 20%. Pour des plantes comme le blé, la perte peut atteindre 70%. Et par contre, les arbres fruitiers sont souvent un peu une exception. Certains d'entre eux n'ont pas du tout perdu de diversité. Donc là, c'est le cas pour certains arbres fruitiers. Et cette perte de diversité, elle a conduit à une accumulation de mutations délétères. C'est ce qu'on appelle le fardeau de domestication. Et donc, c'est lié au fait que on perd de la diversité, la taille de la population, elle devient plus petite, donc on fixe des mutations délétères, donc à la fois par cet effet démographique, mais aussi par des effets sélectifs. Et donc là, si vous regardez le nombre de mutations délétères chez le maïs et chez la théosinte, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus chez le maïs, et c'est un patron qu'on retrouve dans des espèces comme le riz ou la vigne, par exemple. Alors, bien sûr, le maïs a perdu de la diversité, mais tout est relatif. La diversité génétique, elle dépend en fait beaucoup des espèces. Et le maïs, bien qu'il ait perdu 20% de sa diversité par rapport à son ancêtre sauvage, ça reste une espèce très divers. Le nombre de mutations moyens accumulées entre deux variétés de maïs est 15 fois supérieur à celui qui existe entre deux humains. Et en fait, sa diversité est même comparable à la divergence entre le chimpanzé et l'homme. Donc le maïs reste une espèce extrêmement divers, beaucoup plus divers d'un point de vue génétique que l'espèce humaine, par exemple. Ensuite, on peut se poser donc des questions. Donc, maintenant, on a vu le pattern global génomique. On peut se poser des questions sur quels sont les déterminants génétiques des caractères de domestication. Alors, chez le maïs, il y a un gène majeur de domestication qui a été trouvé, qui est maintenant retrouvé dans à peu près tous les ouvrages sur la domestication, qui est vraiment l'exemple classique de ce que Tatiana a mentionné tout à l'heure, un balayage sélectif. Donc, ce gène de domestication, il contrôle le caractère du nombre de thalles, en fait, de l'architecture de la plante entre théosinte et maïs. Donc, la théosinte est très buissonnante, le maïs, en général, a une thalle unique. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin, cette transformation, elle provient du fait que, la croissance de ces méristèmes axillaires est arrêtée chez le maïs, elle est empêchée chez le maïs. Et donc, tout ce que vous avez ici sur une branche de théosinte est en fait réduit à un tout petit segment à la base de l'épi de maïs, épi qui, lui, grâce probablement à des modifications hormonales, l'inflorescence femelle a considérablement augmenté. Donc c'est un changement d'architecture et d'inflorescence qui est très important pour la domestication du maïs. Et des chercheurs ont réussi en fait à identifier la région du génome qui contrôle cette variation et le gène sous-jacent qu'ils ont appelé le gène TB1. Et si vous voyez si vous cherchez maintenant la diversité en amont de ce gène dans un échantillon de théosinte et de maïs, vous vous apercevez de quoi ? Donc là, on est le long du génome. Le gène TB1, il est quelque part par là. Donc là, on est en amont du gène. Et vous voyez que dans un échantillon de maïs, la diversité ici, elle est nulle en fait. Donc tous les maïs, en fait, ils ont une version du gène, un allèle, qui est la version domestique du gène. Il y a une mutation favorable qui donne cette architecture qui a été sélectionnée chez tous les maïs cultivés. Et donc on a une perte de diversité complète au niveau du génome, donc zéro diversité, alors que chez les théosintes, on a encore plein de diversité. Et le gène TB1, ils ont montré par la suite qu'il réprime justement la croissance des bourgeons axillaires. Donc c'est bien lui qui est à l'origine de cette modification. Quelle est la mutation sous-jacente favorable qui a été sélectionnée dans tous les maïs cultivés ? Il s'agit d'un élément transposable. Donc là, je vais faire une petite parenthèse sur les éléments transposables. Ils ont été découverts par Barbara McClintock à partir de l'observation des patrons de mosaïque sur les grains de maïs, découverte pour laquelle Barbara McClintock a obtenu donc le prix Nobel en 1983. Alors, les éléments transposables, c'est des séquences d'ADN qui sont capables de se multiplier et ou de se déplacer dans les génomes. Et vous voyez qu'un grain jaune de maïs, qu'est-ce qu'il a, lui, en fait ? Il a un gène de pigmentation qui a été interrompu par un élément transposable. Donc, en fait, ce gène de pigmentation, il n'est plus fonctionnel dans les grains jaunes. Et donc, le grain est jaune. Mais quand cet élément transposable s'excise, donc il s'en va, à ce moment-là, la fonctionnalité du gène de pigmentation est restaurée et on obtient ici un grain noir ou violet foncé. Si cette excision a lieu plus tard dans le développement, on obtient, et même très tard dans le développement, on obtient des petits grains noirs à la surface, des toutes petites surfaces noires à la surface ici du grain. Et un peu plus tôt dans le développement, on obtient ces espèces de surfaces un peu plus grandes ici, noires. Alors, je trouve ça intéressant de penser effectivement que les éléments transposables ont été découverts chez le maïs et quelque part, ces éléments font aussi, enfin, ont fait que le maïs était possible. Alors, depuis qu'on peut maintenant séquencer des génomes entiers, on s'est aperçu que ces éléments transposables, ils occupent une énorme fraction du génome des plantes. Vous avez ici différentes plantes cultivées avec leur phylogénie, différents cercles de couleurs que je ne vous demande pas de regarder, mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est de regarder le contenu en éléments transposables de ces génomes. Vous voyez que parfois, ça va jusqu'à bien plus de 50% des génomes. Et donc, dans le cas du maïs, le contenu en éléments transposables, en tout cas à ce moment-là, était estimé à 84,2%. Aujourd'hui, on sait que plus de 86% du génome du maïs est occupé par des éléments transposables. Ces éléments transposables, ils corrèlent bien sûr avec la taille des génomes. Donc, si vous estimez la taille du génome de différentes plantes et vous estimez leur contenu en éléments transposables, donc ici, les camemberts représentent, la partie rouge des camemberts représente la fraction du génome occupée par les éléments transposables. Et vous voyez que plus cette fraction augmente, plus la taille du génome augmente. Maintenant, si vous regardez plus entre espèces, mais vous regardez à l'intérieur d'une espèce, comme le maïs, vous séquencez à un endroit du génome une région sur plusieurs lignées de maïs, et vous voyez que dans cette région, il y a des empilements d'éléments transposables, donc c'est ces petits triangles ici, et en fait, cet empilement, il varie beaucoup d'une lignée à l'autre. Donc on parle de variations structurales, il y a eu d'énormes variations structurales entre différentes lignées de maïs, donc entre différents individus de la même espèce. Alors, on pourrait penser, et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous, ce qu'on a estimé ici, c'est la taille du génome de différentes lignées de maïs. Là, c'était des variétés traditionnelles de maïs. Vous voyez que certaines variétés ont 7,11 picogrammes d'ADN par cellule, d'autres 5,58 picogrammes. Donc, c'est une énorme différence de taille de génome à l'intérieur d'une espèce. Mais on n'a pas pu montrer de lien entre le contenu en éléments transposables. Donc c'est d'autres éléments que les éléments transposables qui expliquent des différences de taille de génome à l'intérieur de cette espèce. Donc, les éléments transposables sont une source importante de variations fonctionnelles. Donc, chez le maïs, elle a permis, c'est une mutation donc, qui a permis un changement d'architecture très important. Mais chez d'autres espèces comme la vigne, par exemple, vous avez ici des grains de vigne noire qui sont liés à l'expression ici d'un gène. Ce gène peut être interrompu par un élément transposable et devenir non fonctionnel, vous obtenez du raisin blanc. Cet élément peut sauter en laissant un petit bout en amont du gène. Le gène est moins exprimé que là et vous obtenez un phénotype intermédiaire un peu rosé. Chez l'orange sanguine, c'est le contraire. Donc vous avez ici une orange et quand un élément transposable ici s'insère en amont du gène, au contraire, cet élément possède des séquences qui permettent l'activation du gène qui fait qu'il y a une production de pigments et on obtient l'orange sanguine. Bon, je referme la parenthèse sur les éléments transposables et je reviens à mon gène TB1. Donc là, il y a une chercheuse qui s'est intéressée à savoir si l'allèle domestique au gène TB1 était déjà présent dans des restes archéologiques. Donc elle a séquencé le gène TB1 dans des restes archéologiques datant de 4000 ans, 3000 ans, 2000 ans. Ici, vous avez différentes dates, vous avez deux sites archéologiques. Et ce que vous voyez, c'est que l'allèle domestique qui est retrouvée aujourd'hui chez tous les maïs, il était présent dans tous ces restes anciens, donc ce qui montre qu'à cette époque-là, le maïs était déjà domestiqué, au moins partiellement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chez les théocintes actuellement, si vous recherchez cet allèle domestique de maïs, il existe à très faible fréquence. Donc en fait, il préexiste. Et ce qu'ont fait les premiers agriculteurs, c'est de sélectionner une mutation qui est préexistante dans des populations sauvages à très faible fréquence. Alors, une autre chose à retenir, c'est que TB1, comme beaucoup d'autres gènes de domestication, sont en fait des chefs d'orchestre. C'est des facteurs de transcription qui régulent l'expression de tout un tas d'autres gènes. Donc un gène de domestication, je dirais un peu typique, qui ressemblerait à celui-là, il est en fait embrigadé dans tout un réseau de régulation avec d'autres gènes. On a montré par des simulations qu'il y a une très forte réorchestration de ces réseaux au cours de la domestication. Cette réorchestration, globalement, elle a conduit à plus de gains de connexion que de pertes. Et donc, on a en fait une diminution de la modularité et une augmentation des corrélations génétiques. Donc, vous voyez, ça, c'est une étude par simulation. Les corrélations génétiques, vous voyez qu'elles ont augmenté au cours de la domestication et elles sont restées plus élevées qu'avant. Et ça, ça fait ça peut affecter notre capacité à sélectionner indépendamment des caractères dans les formes cultivées. Donc on va poursuivre maintenant un peu sur l'évolution des caractères. Et notamment, une question qui est intéressante, c'est d'où vient finalement le succès évolutif extraordinaire des espèces cultivées. Donc si on réfléchit à une espèce comme le maïs, mais qui est tout à fait typique, je pense, pour ce patron, le maïs, en fait, son ancêtre, entre guillemets, il est retrouvé dans une petite zone du territoire mexicain. Mais aujourd'hui, le maïs, il est cultivé dans tous les pays, à peu près tous les pays du monde. Donc il y a un succès évolutif extraordinaire. À quoi c'est dû? Alors, les formes domestiques sont bien sûr dans une niche confortable qui est entretenue par les humains. On leur apporte des intrants, etc. On diminue la compétition de ces espèces avec les autres espèces, notamment avec des herbicides. Mais ce qu'on peut penser aussi, c'est qu'en dehors de ces aspects un peu environnementaux, les espèces sauvages apparentées aux espèces domestiques ont sans doute une capacité adaptative un peu hors du commun qui explique que les formes domestiques peuvent ensuite s'adapter vraiment à des environnements extrêmement, extrêmement variés. Donc nous, on a étudié ça, par exemple, chez la théocinte. On a été donc échantillonné des théocintes au Mexique le long de gradients d'altitude. Donc, il faut savoir que les théocintes sont capables de pousser entre 0 mètre d'altitude et 2800 mètres ou au-delà d'altitude. Et on a collecté toutes ces populations de théocintes, on les a cultivées dans deux jardins communs et on a mesuré tout un tas de caractères. Vous avez ici des populations qui sont ordonnées par ordre croissant d'altitude. Et voyez que, par exemple, ici, c'est des caractères tels que la floraison femelle, la floraison mâle, la longueur des grains ou le nombre de stomates. Donc, les stomates, c'est des petites structures sur les feuilles qui permettent de réguler les échanges gazeux. Et vous voyez que les théosinthes qui sont dans les plus fortes altitudes, donc ici, elles fleurissent plus tôt, elles ont des grains plus gros, elles ont une densité en stomate qui est moindre et également elles sont beaucoup moins buissonnantes. Donc il y a vraiment un syndrome ici d'adaptation à l'altitude, donc un ensemble de caractères adaptatifs qui ont été sélectionnés et qui permettent aux théosinthes de s'adapter à des climats déjà extrêmement variés. La floraison, bien sûr, a été un caractère clé de la diffusion du maïs. Le maïs est à l'origine une plante tropicale et quand elle a été apportée vers les latitudes nord, le maïs a été sélectionné pour fleurir tôt en jour long, puisque le cycle favorable de croissance est beaucoup raccourci dans les régions du nord et les jours sont également plus longs en été quand le maïs fleurit. Donc typiquement, quand vous prenez un maïs qui pousse au nord des États-Unis et un qui pousse au sud des États-Unis, vous voyez que le maïs au nord des États-Unis a une floraison beaucoup plus précoce que le maïs du sud, et le maïs qui pousse dans le Midwest, il a une floraison à peu près intermédiaire. Donc si on prend par exemple des gènes de floraison, donc vous avez ici 4 gènes de floraison importants donc, pour le maïs, et ce que vous voyez, c'est qu'on a, pour l'allèle de précocité de floraison, on a une augmentation quand on va ici du turquoise vers le violet. Donc pour ces différents gènes, là, on a une augmentation, une augmentation, une augmentation. Par contre, pour ces gènes, on n'a pas vraiment de patron spécifique pour la diffusion vers le sud. Donc c'est d'autres déterminants génétiques qui ont accompagné l'ajustement de la date de floraison du maïs dans sa migration vers le sud, mais vers le nord, on a déjà un certain nombre de déterminants. Et beaucoup d'entre eux, beaucoup des mutations sous-jacentes, en tout cas, ici, sont dues à des éléments transposables. Alors maintenant que le maïs il est adapté au climat tempéré, on peut se poser la question, est-ce qu'un maïs qui est aujourd'hui, une lignée de maïs qui est aujourd'hui adaptée au climat tempéré, est-ce qu'elle est encore capable de s'adapter? Quel est son potentiel adaptatif? Pour répondre à cette question, on a mené une expérience de sélection divergente sur le plateau de Saclay depuis 20 ans. Donc, on est parti de deux lignées de maïs, donc c'est un matériel génétique extrêmement homogène, deux lignées de maïs, la lignée F252 et la lignée MBS. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pousser ces deux lignées, donc ça, c'est les lignées ancêtres, qui sont en grise. Et puis, on a sélectionné les individus les plus précoces et les individus à floraison les plus tardives, dans chacune des lignées indépendamment. Alors, bien sûr, au départ, il y avait extrêmement peu de différences, et différences très subtiles. Et puis, ensuite, parmi les individus qu'on avait sélectionnés qui étaient les plus précoces, on les a auto-fécondés, on a resélectionné les plus précoces parmi les plus précoces, et ainsi de suite pendant 20 ans, et on a fait pareil pour les tardives. Et ce qu'on observe, donc ça c'est la date de floraison après le 1er juillet, dans les populations précoces et tardives en comparaison de l'ancêtre pour la lignée F252, et dans les populations précoces et tardives de la lignée MBS ancêtre, enfin sélectionnée à partir de la lignée MBS ancêtre ici. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'après 20 générations de sélection divergente, on a jusqu'à 3 semaines de différence entre précoces et tardives, ce qui est un écart comparable à ce qui est observé entre lignées de maïs à l'échelle des Europes. Ce qui montre donc que le maïs a gardé un fort potentiel adaptatif pour décaler de décalage de cycle de vie, et c'est une tendance qui est observée pour d'autres caractères. Donc il y a d'autres expériences de sélection artificielle comme ça qui ont été menées, comme pour des caractères comme le nombre des piles, la taille des grains, le contenu en huile ou en protéines, et à chaque fois, on a un fort potentiel adaptatif. Alors l'adaptation, elle peut venir, donc là elle vient de la sélection, mais elle peut aussi venir de croisements entre variétés adaptées à des environnements distincts. Donc je vous ai montré des maïs du nord, ici, des États-Unis à floraison précoce, des maïs du sud à floraison tardive, et on sait que les maïs du Corn Belt, proviennent de croisements entre des maïs du nord et des maïs du sud. Et les maïs du Corn Belt sont maintenant adaptés à des latitudes moyennes. Donc finalement, là, c'est comme si y avait une innovation, cette adaptation moyenne latitude avait été favorisée par des croisements récurrents entre des sources du nord et du sud. Et c'est ce qu'on observe également en Europe. Je vous ai dit qu'il y avait eu deux vagues d'introduction du maïs en Europe, par le nord et par le sud, et les maïs des Pyrénées ici proviennent également de croisements entre ces deux sources. Alors, donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'hybridation pour un gène de floraison. Vous avez ici, le long d'un gène de floraison, à proximité d'un gène de floraison, vous avez l'enchaînement des nucléotides avec des deux états, blancs ou noirs, qui sont représentés ici. Donc, vous avez ici un haplotype d'un individu, c'est la première ligne. Vous avez plusieurs individus. Vous voyez que tous les individus sont à peu près similaires dans cette région ici. Et si vous prenez maintenant des maïs tropicaux dans la même région, vous voyez que les haplotypes sont très différents de ceux retrouvés dans le nord. Et si vous prenez maintenant des maïs du Corn Belt, qui sont issus du coup de croisements entre ces deux types de maïs, certains dans cette région du génome ressemblent exactement au maïs du nord, d'autres ressemblent exactement aux maïs tropicaux, comme c'est le cas ici, et d'autres sont des hybrides, donc ils ont un bout un bout de cette région qui ressemble au nord et un bout qui ressemble aux maïs tropicaux. Cette hybridation, au départ, donc à partir de l'obtention d'hybrides, on peut avoir des rétrocroisements successifs avec l'un des deux parents qui produit des individus très similaires génétiquement à la population ou l'espèce, parce que ça marche aussi entre espèces proches qui peuvent encore faire des croisements. Et donc, on peut avoir des individus très similaires génétiquement à l'une des deux espèces ou populations, mais ayant comme ça hérité certains fragments génomiques. C'est ce qu'on appelle l'introgression adaptative. Donc là, par exemple, c'est un cas chez la tomate, où on a une espèce endémique de tomate qui est trouvée dans les Galapagos. Et récemment, il y a une espèce invasive qui est arrivée du continent. Et si on regarde ici, dans un gène qui code pour la couleur de la tomate, donc l'espèce endémique est orange, l'espèce invasive est rouge. Et là, ce que vous voyez, c'est l'espèce invasive. Donc, c'est l'espèce invasive, elle a un génome marron, qui a été colorié en marron ici. Et vous voyez que certains des individus de cette espèce invasive, pour cette région du génome, ont hérité d'un fragment bleu qui provient de l'espèce endémique. Et les individus qui ont un fragment bleu pour ce gène-là, ils ont maintenant un fruit orange. Donc il doit y avoir en fait ici une adaptation, ça doit être une adaptation d'avoir un fruit orange dans les Galapagos. Donc je vais vous parler donc un peu plus de ces introgressions et du dialogue entre sauvage et cultivé. Alors ce qui a été montré chez le maïs, c'est que les introgressions la théosinte mexicana a joué un rôle crucial parce qu'elle a permis des introgressions adaptatives qui a contribué à l'adaptation du maïs aux hautes altitudes. Donc vous avez ici, comme Tatiana vous a montré tout à l'heure, le maïs, donc différentes populations de maïs. Dans ces populations, vous avez différents individus qui sont représentés par des barres verticales. Vous voyez que pour les maïs, tout est jaune. Enfin, disons que la majorité de leur génome est jaune. Pour les mexicanas, donc pareil, différentes populations, différents individus par population, chaque barre verticale est un individu. Vous voyez que la plupart est rouge, mais dans les maïs, on a, pour tous les maïs, en fait, une partie de leur génome qui est rouge, donc qui est héritée, en fait, de mexicanas. Et c'est de même, les mexicanas ont également hérité certaines régions du maïs qui sont ici peintes en jaune. Et en fait, si vous regardez en fonction de l'altitude dans la proportion de génome du maïs qui est hérité de Mexicana, vous voyez que plus on augmente en altitude, plus la proportion de génome hérité de Mexicana chez les maïs est importante. Donc ça suggère que cette théosinte mexicana, qui est donc une théosinte qui pousse le long des hauts plateaux et qui est adaptée à des climats d'altitude, a contribué à l'adaptation du maïs aux hautes altitudes. Alors, ce qu'on a montré récemment, nous, dans une étude, c'est que les théosintes européennes, elles ont également reçu des introgressions du maïs. Donc, les théosintes existent en Europe depuis très peu de temps. Et on s'est posé, elles existent en France et en Espagne, et on s'est posé la question d'où elles viennent. Est-ce qu'elles viennent de la théosinte mexicana, par Vigdumis, quelle est son origine? Vous voyez que les théosintes à la fois françaises et espagnoles elles sont jaunes, tout comme la sous-espèce mexicana. Donc on a pu établir que les théocintes européennes proviennent de la sous-espèce mexicana. Et ces théocintes européennes, elles ont été introgressées par des maïs, ici, vous voyez en bleu, donc ça c'est des maïs, et elles ont en particulier introgressé un allèle de précocité de floraison qui leur a permis de s'adapter à nos climats tempérés. Elles ont aussi introgressé un allèle de résistance à un herbicide qui était utilisé chez les maïs et qui a maintenant été transféré chez les théocintes européennes qui sont devenues elles-mêmes résistantes à cet herbicide. Alors, pour la petite histoire, cette théocinte mexicana, elle est déjà connue pour infester les champs de maïs au Mexique. Donc, c'est déjà connue comme pour être une adventice des cultures au Mexique. Alors, là, ça, c'est un graphe pour vous illustrer l'adaptation des théocintes aux conditions européennes. Donc, cette étude, elle a été initiée par l'UMR d'agroécologie, le groupe de Valérie Lecor à Dijon. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont semé dans des jardins communs des théocintes mexicaines, à la fois mexicana et parviglumis, mais aussi des théocintes françaises. Ce que vous voyez, c'est que si on sème des théocintes mexicaines à Dijon, elles commencent à fleurir. La plupart ne fleuriront jamais, mais celles qui fleurissent, en gros, elles commencent à fleurir au moment où on récolte le maïs. Donc en fait, elles ne sont pas capables de produire de grains, puisqu'elles n'iront pas jusqu'au bout de leur cycle. Par contre, si vous prenez les théocintes françaises, elles fleurissent exactement maintenant, en même temps que le maïs. Donc en France, ces théocintes sont principalement retrouvées en Nouvelle-Aquitaine. Elles auraient été observées pour la première fois dans les années 90. Donc c'est vraiment très récent. C'est pour vous montrer aussi que l'échelle de l'adaptation, ça peut être quelque chose d'extrêmement récent. Alors, je vous ai parlé d'introgression adaptative, mais l'introgression, elle peut aussi être mal adaptative, et en particulier, on peut penser qu'un des caractères de domestication, ça a été justement la mise en place de barrières entre les formes sauvages et les formes domestiques, puisque quelque part, quand on a une forme domestique, son intégrité est menacée par des flux de gènes de la forme sauvage vers la forme domestique. Et de même, les hybrides sauvages cultivés peuvent être très contre-sélectionnés dans un environnement naturel. Donc chez le maïs, on a effectivement l'existence de barrières, par exemple, entre maïs et mexicana, comme ça, et avec, on commence à connaître maintenant les déterminismes génétiques de ces barrières. Ces barrières à la reproduction, elles sont vraiment importantes à étudier parce que on souhaite, comme l'a dit Tatiana, utiliser les ressources génétiques disponibles. Et donc, c'est important d'étudier l'origine de ces barrières à la reproduction, ensuite, éventuellement, d'essayer de les contourner pour utiliser les ressources génétiques. Alors là, je vous montre l'intérêt d'utiliser les ressources génétiques. C'est un article qui est paru sur le MIL où ils ont regardé la vulnérabilité génomique. Donc, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité génomique ? C'est quelque part, vous essayez de détecter dans le génome toutes les régions du génome qui pourraient être associées à l'adaptation à un environnement. Ensuite, vous prédisez les environnements futurs avec différents modèles de prédiction climatique. Et ensuite, vous essayez de dire, voilà la composition génomique que mes variétés auront besoin d'avoir en 2050 pour s'adapter au climat. Et la distance entre la composition génomique actuelle et la composition génomique future, ça vous donne votre vulnérabilité. Et vous voyez que, par exemple, pour le mil, donc en rouge, c'est les variétés qui sont très vulnérables dans le futur. Et donc, vous voyez que... qui sont très vulnérables aujourd'hui pour les changements futurs. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de variétés, ici en rouge ou jaune, qui sont très vulnérables. Et certaines variétés donc, sont plus vulnérables que d'autres. Et donc, les ressources génétiques, à la fois sauvages et cultivées, sont essentielles pour améliorer les variétés existantes, puisque justement, elles sont des sources potentielles d'introgression adaptative. Alors finalement, on en vient aux interactions coopératives. Donc, bien sûr, on peut améliorer une espèce en utilisant des ressources génétiques disponibles, mais ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser la diversité entre espèces comme un levier pour générer des interactions bénéfiques entre plantes. Donc, nous, on travaille sur un système qui est le système d'agriculture traditionnelle qui a été pratiqué pendant des millénaires en Amérique latine et qui est encore aujourd'hui pratiqué, et qui consiste, donc, qui s'appelle le milpa, et qui consiste à assembler le maïs, le haricot, et la courge. Et ce que les travaux ont pu montrer, c'est que ces trois espèces, par exemple, ont des complémentarités. Le maïs sert de tuteur pour le haricot. On a des complémentarités au niveau des systèmes racinaires qui explorent des couches de sol un peu différentes. On a aussi une complémentarité d'architecture foliaire, puisqu'on a la courge qui recouvre le sol avec les feuilles, et ce qui permet de limiter la croissance des adventices. On a aussi des complémentarités au niveau des maladies, avec des effets à la fois de barrière et de dilution. On a également des phénomènes de facilitation. Donc, par exemple, les feuilles de courge qui recouvrent le sol permettent de retenir l'humidité. Le haricot est capable de capter l'azote atmosphérique, ce qui favorise la disponibilité en azote pour le maïs. Et on a une possible acidification du sol par des exudats racinaires qui augmentent la disponibilité en nutriments assimilables, à la fois pour le maïs et pour le haricot. Donc, une synthèse un peu récente suggère que ces interactions bénéfiques en fait, entre plantes, elles ont été impactées négativement par la domestication et par l'amélioration des plantes. Donc si on prend par exemple ici des sauvages et des domestiques, ce qu'un ensemble d'études a pu montrer, c'est que la domestication, elle impacte les exudats racinaires, donc potentiellement tous les processus de facilitation d'absorption des nutriments. Elle impacte les réseaux de champignons mycorhiziens dans le sol qui permettent aussi des interactions bénéfiques entre plantes. Et en général, et ensuite elle impacte également la capacité du haricot à capter de l'azote atmosphérique. Tout ça résulte à la fois d'une perte de diversité parce qu'on a aussi une réduction des potentielles complémentarités puisqu'on a moins de diversité morphologique, donc moins de potentialité pour des complémentarités. Les plantes aussi répondent moins à la lumière, donc on a moins de plasticité qui peuvent parfois aussi être bénéfiques dans des interactions complémentaires. Et en fait, tout ça est dû donc à la fois à la perte de diversité, mais aussi au fait qu'on ajoute des intrants. Donc, en ajoutant, par exemple, de l'azote, on se rend compte qu'on relâche la capacité du haricot à sélectionner pour des souches de bactéries particulièrement efficaces qui lui permettent de faire de la symbiose. Donc, la domestication et l'amélioration ont vraiment impacté toutes ces interactions bénéfiques. Et donc, ça peut être aussi intéressant d'utiliser un mélange d'espèces et puis de sélectionner pour des critères un peu différents pour essayer de remobiliser ces capacités d'interaction. Donc, s'il n'y avait qu'une idée à retenir dans l'ensemble des choses que je vous ai présentées ici, pour l'histoire, je pense que c'est vraiment cet aller-retour entre génétique et archéologie qui est intéressant. Les conséquences génomiques de la domestication, c'est globalement une perte de diversité. Les déterminants génétiques, les gènes de domestication sont les chefs d'orchestre. L'évolution des caractères, elle peut être très rapide. Le potentiel adaptatif, pour certains caractères, il reste fort. Le dialogue sauvage cultivé, c'est un peu comme les deux faces d'une pièce, peut être à la fois adaptatif et mal adaptatif. Quant aux interactions coopératives, il est essentiel de les remobiliser dans un contexte d'agroécologie. Donc, je vais terminer en faisant un petit peu de pub. Donc, décrire, préserver, utiliser l'agrobiodiversité. Les citoyens ont vraiment envie d'être acteurs, en fait, de ça. Et donc, nous, dans le cadre d'un projet européen sur le haricot, projet qui s'appelle INCRISE, on est en train d'essayer de tester une approche décentralisée de la conservation et de la multiplication des ressources génétiques. Et pour ça, on évalue, en fait, plus de 1000 lignées de haricots à travers toute l'Europe pour prédire leur capacité d'adaptation à une variété de climat. Et donc, on a fait un appel aux citoyens de toute l'Europe pour nous aider à évaluer ces variétés. Ça, c'est en 2021, l'ensemble des citoyens européens qui ont répondu à l'appel et qui ont cultivé ces variétés. Ça, c'est la carte en 2022 de tous les citoyens qui ont participé. L'appel 2022 est clos aujourd'hui, mais en 2023, il y aura un nouvel appel. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce site web dans lequel il y a des vidéos où tout est expliqué, comment participer à l'expérience, etc. Et peut-être ça peut vous intéresser. Et donc, pour finir, je voudrais remercier une partie des travaux que j'ai présentés aujourd'hui ont été réalisés dans mon laboratoire de recherche, génétique quantitative et évolution au moulon. Et donc, je voudrais remercier en particulier mon équipe de recherche qui a contribué à ces travaux, ainsi que de nombreux collègues de l'UMR, des étudiants, doctorants et post-doctorants aussi qui ont été directement impliqués dans les travaux que j'ai présentés aujourd'hui, ainsi que des collaborateurs extérieurs, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et puis, je voudrais remercier aussi les financeurs de ces travaux et vous pour votre attention. Merci.